Chapitre 61. Ils savaient qu'ils étaient là, et il leur avait adressé un cadeau de bienvenue. Hors de question de se séparer, Frank et Lucie optèrent pour le deuxième étage, où l'individu se planquait peut-être encore. Celui-ci avait attendu d'être seul le soir pour se débarrasser de Victor, comme il l'avait sans doute fait avec Emma Doty des mois plus tôt. Et il l'aurait purement et simplement rayé de la surface de la terre si les policiers n'étaient pas intervenus. Nouveau bruit de porte battante. Charcot percevait le souffle tiède de sa femme sur sa nuque. Il ressentait sa peur, marquée au fer rouge par le spectacle qu'elle venait de voir dans l'ascenseur. Une fois dans le couloir, un choix se présenta à eux. S'orienter à gauche ou à droite. Ils s'engagèrent sur la droite. Lucie, elle, avançait à reculons, surveillant leurs arrières. Ils évoluaient sur le territoire d'un monstre qui connaissait chaque recoin du bâtiment. Ce dernier avait donc l'avantage. L'orage grondait désormais juste au-dessus d'eux. L'averse claquait, pareil à des milliers de coups de fouet sur du cuir. Les éclairs filtraient par les fenêtres, hachant le décor. Frank avait l'impression de progresser à l'intérieur d'un stroboscope géant où chaque flash leur offrait un peu de visibilité tout en les exposant dangereusement. Des cibles potentielles, voilà ce qu'ils étaient. Au plafond, de gros tuyaux en piteux état suintaient de condensation, des ventilateurs ronflaient, un néon s'était décroché et se balançait sur son câble. L'odeur de viande pourrie se faisait de plus en plus forte, pire encore que dans un institut médico-légal. Plus loin, des chariots étaient stockés contre le mur. Charcot souleva le tissu qui recouvrait l'un d'eux et le rabaissa aussitôt. Des cadavres plus très frais qui semblaient attendre leur tour à l'entrée d'une boucherie. Au bout de cette file se trouvaient des salles réfrigérées. L'une était grande ouverte et l'intérieur éclairé. Lucie longeait toujours le couloir pendant que Frank pénétrait dans la pièce, précédé par le canon de son arme. Même en respirant par la bouche, les remugles lui retournèrent l'estomac. Ce qu'il découvrit là était de la pure folie. Des corps empilés les uns sur les autres, sur des planches sommaires, telles des conserves sur des étagères. Des bras, des jambes entassés, avec des étiquettes attachées aux orteils ou aux doigts. Des sacs poubelles qui calfeutraient les accès, comme dans les logements insalubres. Des récipients remplis de substances indéfinissables. Dans un coin, au sol, une boîte de mort aux rats. Charcot avait l'habitude des scènes effroyables. Il en avait vu un paquet dans sa carrière. Mais à ce point-là. Sur une table de préparation, au centre, il tomba sur la dépouille sans tête de Victor, en pièces détachées. Son sang, ses viscères bruns et rosés, ses organes luisaient dans des bassines. Son tronc, planté sur une tige en fer, se dressait tel une statue antique destinée à être exposée. Partout autour, des instruments de découpe empourprés traînaient. La mort, puante, pourrissante, à mille lieues des courbes proprettes des scientifiques. Charcot doutait fort que l'âme de Victor soit tranquillement en train de flotter, là, dans les environs, après que son corps avait été charcuté de cette manière. Soudain, une porte claqua. L'écho se propagea dans tout le couloir. Frank se précipita. Devant lui, Lucie courait. Il s'élança à son tour, mais déjà elle s'engouffrait dans l'embrasure d'une issue de secours. Lorsqu'il atteignit la plateforme en métal extérieure, elle dévalait l'escalier en colimaçon. Les marches, couvertes d'eau, étaient devenues extrêmement glissantes. Des bourrasques malmenaient les arbres, sifflaient dans les branches. La tempête retournait la forêt. En contrebas, loin sur la droite, le chef de groupe distingua une silhouette. Il lui sembla qu'elle était torse nue sous un tablier, avant que celle-ci ne disparaisse dans la pente qui conduisait au garage. Elle avait beaucoup trop d'avance pour espérer la rattraper. Lorsque la voiture jaillit dans un grondement féroce, Lucie tenta de faire front, seule au milieu du parking, mais les pleins phares l'aveuglèrent. Elle eut tout juste le temps de se jeter sur le côté que le véhicule fonça dans une flaque, à un mètre à peine d'elle, puis braqua d'un coup sec en direction de la route. Charcot ne chercha pas à tirer. Dans de telles conditions, il n'avait aucune chance de faire mouche. Il s'empressa de rejoindre Lucie, qui se redressait dans une grimace.
« Je n'ai rien. Ça va. »
Elle était trempée jusqu'aux os, pleine de boue. Franck l'emmena à l'abri d'un garage.
T'as pu relever l'imat ?
Elle secoua la tête. Franck regretta de ne pas l'avoir noté dès leur arrivée, mais il n'était pas inquiet, il n'aurait pas de mal à retrouver rapidement l'identité de celui qui venait de leur échapper. Il s'empara de son téléphone et composa le numéro de Pascal pour lui demander de rappliquer illico. Robillard en profita pour annoncer que l'expert en informatique jetait un œil à l'ordinateur chez Victor, mais que la fenêtre de chat s'était figée. A priori, le contact avait été rompu, comme si on s'était douté de quelque chose. Julien Sidroux ne pourrait donc pas faire grand-chose avant d'avoir obtenu des éléments auprès du fournisseur. Selon lui, si l'accès Internet était correctement protégé, il n'aurait aucun moyen de savoir d'où provenaient les terribles lamentations de cette mystérieuse Eudotie.